Chapitre 21.
Je l'avais dit que c'était foutu, ragea Buddy Kupperman en s'abattant dans un fauteuil Louis XV. Le Vatican a les meilleurs services secrets du monde. Faut être naïf pour croire qu'une donation à un hôpital garantit le silence de 15 témoins et qu'il suffit d'escamoter Jimmy 10 jours dans un monastère pour étouffer l'affaire. Arrivé juste avant lui dans le bureau d'angle du juge Claiborne, Irwin Glasner se tourna vers le coordinateur et répliqua d'un ton froid « La décision de la curie était prise bien avant le voyage à Lourdes. La naïveté, c'était de penser qu'une lettre de Jimmy renonçant à ses droits patrimoniaux plaiderait en sa faveur. Pour l'Église, ce n'est pas une question d'héritage, mais de principe. Lisez !» La bouche en cul de poule, le conseiller juridique tendit à Kupperman l'ordonnance signée par le cardinal Nicolino, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, qu'avait scanné depuis Rome Mgr Givens. La demande d'examen du dossier sous référence a été jugée irrecevable, tant sur le plan scientifique qu'au regard du droit canon. D'éventuels prélèvements sanguins sur le saint linceul, en date du 21 avril 1988, ayant été effectués sans autorisation ni contrôle, la commission d'études ne saurait prendre en compte un quelconque résultat d'expérience mené à partir d'échantillons dont rien ne garantit l'authenticité ni la provenance. Toute mention ou déclaration publique d'imposteur se réclamant desdites expériences relèverait donc d'une hérésie qui frapperait d'excommunication ses auteurs, ses complices et ses dupes. En outre, les États-Unis ayant été historiquement, aux côtés du Vatican, parmi les plus ardents partisans de l'interdiction absolue du clonage humain, le Saint-Siège ne saurait douter de leur condamnation implicite et définitive d'une tentative de manipulation génétique portant atteinte à la personne sacrée d'un embryon, quelle qu'en soit l'origine.
« Ces cathos sont vraiment des nazes, » grommela Kupperman en abaissant la lettre.
« On leur apporte la preuve de leur dogme et ils font la fine bouche. »
L'Église n'a jamais reconnu officiellement le linceul en tant que relique, rabâcha Irwin d'une voix fatiguée. Elle n'allait pas légitimer la créature issue d'un linge qu'elle s'obstine à qualifier d'icône. J'avais dit à Givens que la parité des génomes rendrait les cardinaux hystériques, mais non, il se faisait fort d'obtenir l'agrément de ses amis.
Le juge se leva, défroissa son blazer et alla reprendre le document des mains de Kupperman.
Comme je le disais à Irwin avant que vous n'arriviez, un tel papier n'a aucune valeur juridique. Ce cardinal Nicolino n'est qu'un préfet de la curie romaine, chargé d'expertiser les candidats à la canonisation. Il est habilité à se prononcer sur les vertus morales ou spirituelles de Jimmy et à critiquer les miracles qu'on lui attribue. C'est tout. Seul l'archevêque de Turin est qualifié pour contester l'origine des prélèvements. C'est lui le custode, le gardien du linceul.
Voilà sa réponse, fit Glasner en sortant une deuxième feuille de son porte-document. Arrivé par Internet il y a 10 minutes. Il se contente de reproduire la déclaration de son prédécesseur, qu'il estime explicite et définitive. Il circule de plus en plus d'informations à propos d'expérimentations faites sur des échantillons de matériel venant du saint linceul. Même si l'Église reconnaît à chaque scientifique le droit de faire les recherches qu'il croit opportunes dans le domaine de sa science, il est nécessaire, dans le cas présent, de mettre au clair que A. Aucun nouveau prélèvement n'a été fait après le 21 avril 1988 et, autant que le sache la garde du saint linceul, il n'est pas possible que du matériel restant de ce prélèvement soit entre les mains de tiers. B. Si ce matériel existait, le gardien rappelle que le Saint-Siège n'a donné à personne l'autorisation d'en détenir et d'en faire quelque usage que ce soit, et il demande aux intéressés de le remettre dans les mains de l'autorité vaticane.
« Faudrait savoir, » grinça Kupperman, « il récuse Jimmy ou il le réclame ?»
Quelle est l'interprétation de Mgr Givens ? Demanda prudemment Claiborne en se rasseyant. Il est vexé,
résuma Irwin. Il prend le refus d'audience comme une offense personnelle. Il dit que c'est un règlement de compte et que le cardinal Nicolino lui fait payer le prix de son soutien à l'Opus Dei.
« Quoi encore ?»
lança Claiborne à la jeune collaboratrice qui venait d'entrer sur 15 centimètres de talon.
« Je pense que ça devrait vous intéresser, Wallace. J'ai lancé une recherche sur l'origine du titre de propriété. »
La juriste déposa son mémo sur le bureau et ressortit avec une discrétion ostentatoire.
« Mais ça change tout !» s'exclama brusquement le juge Claiborne en frappant son buvard du plat de la main.
Instantanément, son teint était passé du rouge au violacé.
« Les cardinaux n'ont rien à dire. Le linceul ne leur appartient pas. Vous entendez ? Pendant 5 siècles, il a été la propriété de la maison de Savoie jusqu'en 1981, où le roi Humbert II l'a légué au souverain pontife. Non pas au Vatican, à l'archevêque de Turin ou à Jean-Paul II alors en exercice, mais à la personne morale du successeur de Saint-Pierre. C'est du pape et de lui seul que relève Jimmy, dès lors qu'il est un produit dérivé du linceul. »
Glasner passa lentement la main sur son visage, pendant que le juge frétillait de plus belle, pianotant sur les touches de son interphone.
« Allison, envoyez illico un rappel du titre de propriété à mon homologue de la secrétaire d'État au Vatican et dites à Givens de griller les sous-fifres, qu'il demande directement une audience au Saint-Père. »
Claiborne se rejeta en arrière dans son fauteuil en cuir clouté, les doigts croisés sur le nombril, dans un état de jubilation qui faisait peine à voir. « Je sors de chez le président », laissa tomber Irwin sur le ton posé de celui qui s'apprête à gâcher la fête. « On arrête tout. Pardon ? Je vous rappelle que la vocation première de Jimmy, c'était d'être un cadeau. Tout ce que voulait le président, c'était faire plaisir au Vatican. L'objectif était de livrer un messie clé en main en échange de l'annulation du premier mariage d'Antonio.
« Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» bondit Kupperman.
Devenu presque livide, Claiborne attesta qu'en effet, le président souhaitait se marier religieusement. En opposant une fin de non-recevoir à son cadeau, acheva Irwin, le Vatican lui fait mettre un terme à l'opération Oméga. Interloqué, Buddy ouvrait et refermait la bouche en les regardant tour à tour.
« Alors, c'était ça ? Ce n'était que ça ?»
À la surprise des deux autres conseillers, il éclata de rire. Un fou rire énorme, cascadant, suraigu, qu'il n'essayait même pas d'endiguer.
Les bras en croix ramenés brutalement pour claquer des mains sur ses cuisses et branlant dangereusement le fauteuil Louis XV dont les accoudoirs disparaissaient sous ses bourrelets, Buddy Kupperman s'abandonnait à la plus belle crise d'hilarité qu'il eût connue.
Essayant d'ignorer les barrissements du scénariste, Irwin Glasner transmit au juge Claiborne les ordres du président. La délégation conduite par Mgr Givens devait rentrer immédiatement à Washington, tandis que la Maison Blanche la désavouerait dans une lettre personnelle au souverain pontife, imputant sa venue à la seule initiative du conseiller aux affaires religieuses, d'ores et déjà relevé de ses fonctions. Un appel au directeur de la CIA venait de sceller le sort du docteur Entridge, qui rejoignait l'évêque dans la charrette à visée diplomatique. Quant à Jimmy, le très Saint-Père recevait l'assurance qu'on n'en entendrait plus jamais parler. Une fois calmé, Buddy reboutonna sa veste, se leva, arracha de ses hanches le fauteuil qui tentait de s'incruster et prononça avec simplicité son oraison funèbre.
« Allez, je démissionne avant qu'on me vire. Salut, Irwin. Je regrette pas le voyage, on aura bien rigolé. Dites aux mariés que je suis habitué à tenir ma langue, » ajouta-t-il à l'adresse de Claiborne. « Mais si jamais on avait l'idée saugrenue d'attenter à mes jours, le 6e évangile serait publié dans le quart d'heure. »
Après avoir jeté sur le sous-main son badge à puce, il fit trembler le parquet jusqu'à la porte qu'il referma dans un bruit mat. Aussi impressionné par la dignité de sa sortie que choqué par sa désinvolture, Glasner prit congé à son tour.
laissé en plan au milieu des documents qui lui donnaient l'avantage sur la curie romaine, Wallace Claiborne se sentait désarmé, au bord de l'écœurement. Être parfois contraint de perdre par abandon lorsqu'on détient les cartes maîtresses était la seule chose qui lui répugnait en politique. De retour dans son placard jaune, Irwin téléphona au Memorial Hospital et dit à son chirurgien qu'il se tenait à sa disposition. Le praticien consulta son planning et lui proposa une admission immédiate pour effectuer les examens en vue d'une intervention le surlendemain. « Si vous êtes encore opérable, » acheva-t-il avec la rancune pincée d'un amant éconduit qu'on a laissé sans nouvelles. « C'est à vous de décider, » répondit Irwin qui, depuis son entrevue avec le président, n'éprouvait plus que l'indifférence qui succède au dégoût. « Je suis libre, » acheva-t-il en coupant la communication.
Fin du huitième disque.